Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Dans mes livres, il s'agissait de toi. Je ne faisais que m'y plaindre de ce dont je ne pouvais me plaindre sur ta poitrine. Dans la lettre qu'il écrit à son père en 1919 et qu'il ne lui remettra jamais, Franz Kafka confesse que sa relation à cet homme est l'une des sources principales de son œuvre romanesque. Règlement de compte, tentative d'auto-analyse, plaidoyer perdu d'avance, missive d'amour et de haine, cette lettre, publiée seulement plus de 30 ans après sa rédaction, en 1953, nous offre une plongée dans un univers fait de culpabilité et de honte, qui rappelle en bien des points celui du procès ou du château. Le 18 mars 1966, pour l'émission Le Livre de Chevet, Dominique Rollin lisait la conclusion de La Lettre au Père de Franz Kafka.
Le Livre de Chevet. Jean-Vincent Bréchignac vous propose le livre de chevet de Dominique Rollin. Ce soir, Lettre au Père de Franz Kafka, traduction de Marthe Robert.
Selon une opinion répandue, la peur du mariage viendrait souvent de ce que l'on craint d'avoir des enfants qui vous feraient payer plus tard tous les torts qu'on a eus soi-même envers ses parents. Je ne crois pas que cela ait joué un rôle très important dans mon cas. La conscience de ma culpabilité me vient trop réellement de toi. Elle est aussi bien trop convaincue de son caractère unique. Je peux même dire que ce sentiment d'être unique fait partie de sa nature douloureuse. Une répétition est inconcevable. Et pourtant, j'avoue qu'un fils comme moi, un fils muet, apathique, sec, dégénéré, me serait insupportable. Il est probable qu'à défaut d'une autre possibilité, je le fuirais, j'émigrerais, comme tu as voulu le faire un jour à cause de mon mariage. Ceci, donc, peut également jouer un rôle dans mon incapacité de me marier. Mais en l'occurrence, beaucoup plus importante est la peur que j'éprouve pour moi. Cette peur, il convient de la comprendre de la manière suivante. J'ai déjà indiqué que, grâce à mon activité littéraire et à tout ce qui s'y rattache, j'ai fait, sans obtenir plus qu'un succès excessivement limité, de petits essais d'indépendance et de fuite qui, beaucoup de choses me le confirment, n'auront guère de prolongement. Mais malgré tout, j'ai le devoir de veiller sur eux, ou pour mieux dire, ma vie consiste à veiller sur eux, à les préserver de tout danger contre lequel je puis les défendre, et même de toute éventualité de danger. Le mariage comporte une telle éventualité, ainsi que celle d'un encouragement, mais il me suffit que l'éventualité du danger existe. Qu'adviendrait-il de moi si c'était tout de même un danger ? Comment pourrais-je continuer à vivre dans le mariage avec ce sentiment impossible à prouver sans doute, mais assurément irréfutable? Face à ce problème, je puis bien hésiter, mais l'issue est certaine, il me faut renoncer. La métaphore du moineau dans la main et du pigeon sur le toit ne s'applique que de fort loin à mon cas. Dans la main, je n'ai rien, sur le toit, il y a tout, et pourtant, il me faut. Ce sont les conditions de la lutte et les besoins de la vie qui en décident ainsi, choisir le rien. Et c'est bien d'une manière analogue que j'ai dû choisir ma profession. Mais l'obstacle essentiel à mon mariage, c'est la conviction, maintenant indéracinable, que pour pourvoir à la suffisance d'une famille, et combien plus encore pour en être vraiment le chef, il faut avoir toutes ces qualités que j'ai reconnues en toi, bonnes et mauvaises, prises ensemble, telles qu'elles se trouvent organiquement réunies dans ta personne, c'est-à-dire de la force et du mépris pour les autres, de la santé et une certaine démesure, de l'éloquence et un caractère intraitable, de la confiance en soi, et de l'insatisfaction à l'égard de tout ce qui n'est pas de soi, un sentiment de supériorité sur le monde et de la tyrannie, une connaissance des hommes et de la méfiance à l'endroit de la plupart d'entre eux, à quoi s'ajoutent des qualités entièrement positives telles que l'assiduité, l'endurance, la présence d'esprit, l'ignorance, de la peur. Par comparaison, je n'avais presque rien ou que fort peu de tout cela, et c'est avec ce peu que j'aurais osé me marier, moi, alors que je te voyais, toi, lutter durement dans le mariage et même faire faillite en ce qui concernait tes enfants. Cette question, il va sans dire que je ne me la posais pas plus expressément que je n'y répondais. Si je l'avais fait, le sens commun aurait pris la chose à son compte et m'aurait montré des hommes qui, pour différents de toi qu'ils fussent, se sont pourtant mariés, l'oncle Richard, pour n'en citer qu'un dans ton entourage. Et dont le moins qu'on puisse dire, c'est que le mariage ne les a pas écrasés, ce qui est déjà beaucoup et m'aurait simplement suffi. Mais cette question, justement, je ne la posais pas, je l'avais vécue dès mon enfance. Je n'avais pas attendu le mariage pour me mettre à l'épreuve. Je l'avais fait à propos de n'importe quelle bagatelle. Mais à l'occasion de chaque bagatelle, tu m'as persuadé de mon incapacité, de la manière que j'ai essayé de décrire par ton exemple et ton éducation. Et ce qui était vrai et te donnait raison, lorsqu'il s'agissait d'une bagatelle, devait bien entendu être monstrueusement vrai quand il s'agissait de la chose la plus grave, de mon mariage. Jusqu'au moment où j'ai tenté de me marier, j'ai vécu comme un homme d'affaires qui vit au jour le jour, qui est, certes, accablé de soucis et de sombres pressentiments, mais ne tient pas pour autant une comptabilité rigoureuse. Il a quelques petits bénéfices qui ne cessent de couver et d'exagérer en pensée en raison de leur rareté. Mais pour le reste, il est chaque jour en déficit. Tout est porté sur les livres, mais on ne fait pas le bilan. Te voilà maintenant forcé d'en venir au bilan, c'est-à-dire à une tentative de mariage. Et à cause des sommes considérables sur lesquelles il faut opérer, tout se passe comme s'il n'y avait toujours eu qu'une seule grande dette, et jamais le moindre gain. Va donc te marier sans devenir fou. Tel est l'aboutissement de la vie que j'ai menée auprès de toi jusqu'ici, telles sont les perspectives qu'elle implique pour l'avenir. Si tu avais un jugement d'ensemble sur ce qui, à mon sens, explique la peur que tu m'inspires, tu pourrais me répondre. Tu prétends qu'en expliquant mes rapports avec toi par ta seule culpabilité, je me rends la tâche facile. Moi, je crois qu'en dépit de tes efforts apparents, tu te fais les choses pour le moins aussi faciles, mais qu'en outre, tu t'arranges pour les rendre beaucoup plus lucratives. Tu te décharges de toute faute et de toute responsabilité, en cela donc, notre procédé est le même. Mais, tandis qu'ensuite, tout aussi franc en parole qu'en pensée, je rejette entièrement la faute sur toi, tu tiens à montrer un surcroît d'intelligence et de délicatesse en m'absolvant, moi aussi, de toute faute. Bien entendu, tu n'y parviens qu'en apparence. Tu n'en veux d'ailleurs pas davantage. Et malgré toutes tes phrases sur ce que tu appelles façon d'être, tempérament, contradiction, détresse, il apparaît entre les lignes qu'en réalité j'ai été l'agresseur, alors que dans tout ce que tu as fait, tu n'as jamais agi que pour ta propre défense. Parvenu à ce point, tu aurais donc, grâce à ta duplicité, obtenu un assez beau résultat, puisque tu as démontré trois choses. Premièrement, que tu es innocent. Deuxièmement, que je suis coupable. Et troisièmement, que, par pure générosité, tu es prêt non seulement à me pardonner, mais encore, ce qui est à la fois plus et moins, à prouver et à croire toi-même, à l'encontre de la vérité d'ailleurs, que je suis également innocent. Cela pourrait te suffire, mais cela ne te suffit pas encore. C'est qu'en effet, tu t'es mis en tête de vivre entièrement et absolument à mes dépens. Je t'accorde que nous luttons l'un contre l'autre, mais il y a deux sortes de combats. Le combat chevaleresque, où des adversaires libres mesurent leurs forces, où chacun reste seul, perd ou gagne par ses propres moyens. Et le combat du parasite, qui non seulement pique, mais encore assure sa subsistance en suçant le sang des autres. Ce dernier est celui du vrai soldat de métier, et voilà ce que tu es, incapable de vivre, voilà ce que tu es, mais pour pouvoir t'installer commodément dans ton incapacité et y rester sans te faire de soucis ni de reproches, tu démontres que je t'ai enlevé ton aptitude à vivre et que je l'ai mise dans ma poche. Dès lors, que t'importe d'être incapable de vivre, puisque c'est moi qui en porte la responsabilité? Toi, cependant, tu t'étends tout de ton long et tu te laisses traîner par moi à travers la vie, physiquement et spirituellement parlant. En voici un exemple. Quand tu as voulu te marier dernièrement, tu voulais en même temps ne pas te marier. Tu le concèdes toi-même dans cette lettre. Mais, pour ne pas avoir d'effort à faire, tu désirais que je t'aidasse à faire échouer ton mariage en t'interdisant cette union à cause de la honte qu'elle ferait rejaillir sur mon nom. Mais je n'y ai même pas songé. Et ceci parce que, là comme ailleurs, je ne voulais pas être un obstacle à ton bonheur et que, de plus, je ne veux pas que mon enfant ait jamais à m'adresser un pareil reproche. Mais cet effort que j'ai dû faire pour te laisser libre de te marier m'a-t-il servi à quelque chose? Pas le moins du monde. Mon aversion pour ce mariage ne l'aurait pas empêché. Au contraire, elle n'aurait pu que t'inciter davantage à épouser la jeune fille, car, en te mariant, tu aurais mené à bien ce que tu appelles ton essai de fuite. Et le fait que je t'ai permis ce mariage ne m'a pas épargné tes reproches, puisque tu fais la preuve que je suis, de toute façon, responsable de ton échec. Mais au fond, sur ce point comme sur les autres, tu ne m'as prouvé que ceci. Tous mes reproches étaient fondés, il en manquait même un, qui l'était particulièrement, celui de fausseté, de basse complaisance, de parasitisme. Ou je me trompe fort, ou tu utilises encore cette lettre comme telle pour vivre en parasite sur moi. À ceci, je réponds d'abord que cette objection, qu'on peut d'ailleurs retourner en partie contre toi, ne vient pas de toi mais de moi. C'est que rien, pas même ta méfiance à l'égard des autres, n'égale la méfiance de moi-même dans laquelle j'ai été élevée par toi. Je ne dis pas que cette objection, à laquelle en soi apporte encore des éléments nouveaux à la définition de nos rapports, soit dénuée de tout fondement. Il est clair que les choses réelles ne peuvent pas s'assembler comme les preuves dans ma lettre. La vie est plus qu'un jeu de patience. Mais avec le correctif apporté par l'objection, correctif que je ne peux ni ne veux exposer en détail, il me semble qu'on arrive malgré tout à un résultat approchant d'assez près la vérité pour nous apaiser un peu et nous rendre à tous deux la vie et la mort plus faciles. Franz.
Dominique Rollin a lu ce soir un extrait de « Lettre au père » de Franz Kafka, traduction de Marthe Robert. C'était « Le livre de chevet » de Dominique Rollin, une émission de Jean-Vincent Bréchignac, assistante de production Janine Antoine.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 mars 1966. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.